Ce matin, on peut mettre le PowerPoint. Voilà, c'est la série « La vraie nature du christianisme ». Donc, on vient de terminer la série sur la vraie nature de Dieu, à travers son cœur qui est doux et humble, donc sur la personne de Jésus. Et juste avant, hein, si vous vous rappelez, en janvier et début février, j'avais commencé justement cette série-là sur la vraie nature. En fait, c'était en février dernier que j'ai commencé la vraie nature du christianisme. Et j'avais fait deux messages basés sur Romains 8. On avait vu Romains 7 au cours de l'année passée. Et là, cette année, Dieu voulant, il y a une série de 9 messages sur Romains 8 et qui veut faire une belle suite, entre autres, à Libération 21 et aussi par rapport à qu'est-ce que c'est le christianisme. Donc, l'ADN, si vous préférez le terme à la vraie nature, ça allait bien, je pense, avec la vraie nature de Dieu. On cherchait à savoir qui est Dieu vraiment et son cœur, l'essentiel de Dieu, qu'est-ce qu'il a vraiment à cœur. Et ici, maintenant, c'est quoi le christianisme? Qu'est-ce que est la nature même de la foi chrétienne? Ça se résume à quoi, ça? Ça consiste en quoi la nature, la vraie nature du christianisme. Et on aime ça parler de vrai parce qu'on est dans une société qui recherche l'authenticité. On veut être vrai. On veut être authentique. Eh bien, imaginez-vous, le christianisme aussi, il veut être authentique parce qu'il est malmené dans notre société et à travers le monde. On lui apporte toutes sortes d'étiquettes et il faut aussi dire que, malheureusement, parfois, on nourrit ces étiquettes-là de différentes façons et c'est malheureux parce qu'on perd de vue l'essentiel, l'ADN, la vraie nature du christianisme. Et pour vous illustrer un petit peu ça, et là je vais enchaîner, je vais faire un petit résumé sur les deux premiers messages avant d'enchaîner sur le troisième. Mais si par exemple je vous disais que le christianisme, ça commence quand même avec la venue de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Avant la venue de Jésus, ça n'existait pas. Il y avait d'autres religions, il y avait le judaïsme, il n'y avait pas l'islam encore à ce moment-là, mais il y avait d'autres religions, d'autres façons de s'approcher de Dieu, d'adorer Dieu et d'être Dieu. Il y avait des idoles. Et là, il y avait naturellement l'Éternel, le Dieu des Juifs et le judaïsme qu'on appelle parce que c'était associé à la nation juive. Et là est venu Jésus, et là Jésus est venu apporter ce qu'on appelle le christianisme. Donc, la première chose, quand on parle du christianisme, il faut qu'on parle de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Maintenant, est-ce possible de parler de Jésus-Christ et de manquer quand même la vraie nature du christianisme? Il y a un livre en anglais, malheureusement, il est juste en anglais, s'il y en a qui auraient aimé le lire, là, mais si vous lisez l'anglais, par contre, ça serait, je vous l'encourage fortement à le lire. C'est un livre de Michael Orton, qui est un auteur américain, un professeur à différentes écoles, théologien de profession, chrétien évangélique. Et il a écrit un livre qui s'intitule, en anglais, « Christless Christianity ». Pour ceux qui comprennent l'anglais, ça veut dire un christianisme sans Christ. C'est ça que ça veut dire, Christless, ça veut dire sans Christ. Et là, Christianity veut dire christianisme. Donc, un christianisme sans Christ. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Ben, je vous dirais, c'est un peu comme un Noël sans Jésus. Hein? On peut avoir l'enveloppe, on peut célébrer Noël qui veut dire la nativité, et puis finalement, ça n'a rien à faire avec la nativité. Ça a à faire avec plein d'autres affaires, mais ça n'a rien à faire avec la nativité. Est-ce possible même pour les chrétiens? C'est même possible pour les chrétiens de fêter Noël sans vraiment que ça soit l'objet de Noël, la naissance de Christ, sa venue, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose avec le christianisme. C'est possible d'avoir Jésus, et puis là, de dire, OK, moi, là, on va dire, OK, regardez bien, je vais faire un... Tiens, comprenez que c'est pas Jésus, là, mais il va représenter Jésus. Moi, je suis ici, et là, j'entends parler que Jésus est venu sur la terre. qu'il est mort sur la croix et que sa venue sur la croix, ça a changé le cours de l'histoire. Et que là, ce Jésus-là, il est venu, il a enseigné, et là, il y a des écrits sur lui, il y a un record de tout son enseignement, c'est dans le Nouveau Testament et tout ça. Et là, moi, je regarde ça, puis je dis, ah, wow, c'est intéressant, ça m'intéresse. Là, je peux regarder ça et faire simplement comme ceci. Jésus, c'est quelqu'un qui est un personnage historique, c'est quelqu'un qui est venu, qui a eu un enseignement, et je trouve qu'il est spécial, je trouve que c'est une bonne personne, qui a fait du bien, puis là, je vais m'en servir comme le modèle dans ma vie. Je voudrais suivre son enseignement. Parce que je pense qu'en suivant son enseignement, je vais m'améliorer comme personne. Donc, est-ce que c'est ça le christianisme? Je peux adhérer à Jésus, à son enseignement, le prendre comme modèle de vie, et c'est pas ça le christianisme. Jésus n'est pas venu pour être un modèle à suivre, à imiter. C'est pas la raison de sa venue. Donc, si je fais ça, je suis dans une religion. Et là, si en plus j'ajoute à ça qu'en faisant ça, ben là, je vais être en bon terme avec Dieu, je vais possiblement être avec lui pour l'éternité, Dieu va m'accepter dans son ciel, et puis là, je vais m'améliorer et tout ça. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'essentiel d'une religion. Maintenant, si par contre, je dis, OK, là, Jésus, il est mort sur la croix, et moi, je suis quelqu'un pour qui il est mort, parce que j'ai des péchés, et là, je le vois pas simplement comme un modèle, mais je le vois comme un sauveur. Et là, je me pose la question, mais est-ce que je suis sauvé? Ou quelqu'un me pose la question, mais es-tu sauvé? Ben, sauvé, qu'est-ce que tu veux dire par sauvé? Ben, vas-tu aller au ciel quand tu vas mourir? Ben, je sais pas, qui peut savoir ça, puis tout ça. Mais là, il m'apprend que Jésus, lui, est justement venu pour me donner cette assurance-là, que si je me tourne vers lui, si je l'accepte comme mon sauveur, bien, je vais avoir le pardon de mes péchés, et là, il va me préparer une place, puis ça, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est le recevoir dans ma vie. Et avec ça, ça veut dire que je le reçois comme mon Seigneur aussi. C'est-à-dire que là, il va devenir le maître de ma vie. Et là, j'accepte de maintenant devenir un de ses disciples. Si je fais ça, je reçois Jésus comme sauveur, et là, je suis dans le vrai christianisme. C'est-à-dire, Jésus, il est vraiment venu pour ça. Il est vraiment venu pour mourir sur la croix et nous permettre d'être réconciliés avec son Père si on se tourne vers lui et qu'on lui dit simplement, « Toi, tu l'as fait, toi, tu étais capable, tu as accompli la volonté de ton Père 100%, tu as pris mes péchés, tout ce que j'ai pu faire de mal, je ne mérite pas d'aller au ciel, mais toi, tu vas m'emmener au ciel. » Et là, je place ma foi en lui. Si vous vous rappelez, à Pâques, j'avais parlé de l'histoire de Blondin, où son gérant s'était embarqué sur son dos, puis Blondin a dit, « Tu bouges plus, tu n'existes plus, tu es uni avec moi, essaye pas de faire quoi que ce soit, si ça bouge un peu, que le vent est trop fort, laisse-moi, je vais t'emmener de l'autre côté. » Ça, c'était la foi. Je crois que Blondin peut le faire, et là, je suis comme mort, moi. Je le laisse, lui, m'emmener de l'autre côté. Et il a réussi à le faire. Il a réussi à faire ça. Pour aller au ciel, la foi en Jésus, c'est semblable à ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive une fois que je suis sauvé, que j'ai accepté Jésus? Donc, il y a un avant puis il y a un après. Après ma conversion. Là, ce qui arrive après ma conversion, c'est que je dois marcher. Hein? Je dois vivre pour Dieu maintenant. Je dois vivre en nouveauté de vie. Donc là, je veux marcher, je veux aller faire la volonté de Dieu, je commence à marcher, et là, en marchant tranquillement, parce que là, il faut que j'aille dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, j'ai des défis, et là, tout à coup, whoop, je trébuche. Et là, je viens de faire de quoi que je sais qui est pas correct, qui est pas selon la volonté de Dieu. Pourtant, je l'ai accepté comme mon sauveur. Là, je fais quoi? Ben, ça arrive, ça. Ben là, ce que je fais, c'est que je retourne à la croix. Ça, Là, je retourne à la croix, puis là, je dis, Jésus, je suis vraiment triste, je suis désolé. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Tu me pardonnes. Merci d'être mort pour ce péché-là aussi. Et là, je reprends, je continue ma route. J'avance, je marche. Et là, qu'est-ce qui arrive encore? Je vais un petit peu plus loin, puis là, encore une fois, je trébuche. Je tombe, je m'éloigne, je pêche. Qu'est-ce que je fais? Bien là, ma réaction, c'est de retourner à la croix. Et là, de retourner à la croix, bien là, encore une fois, Jésus me dit, regarde, je suis mort pour ça aussi. Viens à moi, mon sang a coulé pour toi, puis maintenant, je suis là pour toi. Il me pardonne. C'est déjà acquis. Hein? Parce que c'est pas une religion. C'est une relation. Alors, je reviens à Jésus. Et là, je continue. Ça va bien. Je suis content. J'ai eu la victoire. Le Seigneur m'a pardonné. Je retrouve la joie de mon salut. Et là, j'avance. Je continue. J'avance. Je vais encore un peu plus loin. Ça va de mieux en mieux. Ma vie chrétienne est fortifiée. Je prends de l'assurance. Désolé pour ceux qui sont sur Internet, là. Au moins, vous m'entendez. J'avance dans l'Assemblée simplement pour montrer que c'est ça le progrès de la vie chrétienne, où on avance, on avance, on avance. Puis là, whoop, encore une fois. Qu'est-ce que je fais? Et là, je devrais simplement dire, il semble qu'il doit être tanné un peu, là. Je devrais avoir appris ça, moi, que pourtant je retombe dans le même péché en plus. Pourquoi c'est que je fais ça encore? Et là, Seigneur, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. J'espère que tu n'es pas trop fâché après moi, là. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai de la misère avec ça. Tu me pardonnes, Seigneur? Oui, oui, c'est correct, regarde. À tous ceux qui confessent ses péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Ah, Seigneur, merci. Ça me rassure, ça me rassure. Je repars, je suis content, là, tu sais, je suis reparti à neuf, là, je suis plus motivé encore, puis là, tu vas voir, là, ça va aller bien, ça va aller de mieux en mieux, puis là, je ne retomberai plus dans ce péché-là, puis là, ça va, puis là, oups, je suis tenté. Il me tente, lui, ah oh, non, j'écoute pas sa voix, non, merci Seigneur, je veux juste que tu veux que je fasse ta volonté, pas celle de Jean. Non, c'est la tienne, Seigneur, que je vais faire. Là, il me dit de ceci, non, mais ça, c'est pas correct, parce que ta parole dit telle chose. Puis là, je continue à avancer, puis là, ça va quand même bien. Puis à un moment donné, encore là, quoi? Tombe. Hey, voyons donc, là. Ah là, il faut que je retourne à la croix. Mais là, comprenez, ça commence à être loin, là. Hein? Ça commence à être loin. Puis là, j'y vas-tu? Que le fais-tu? Hein? Tu le ferais-tu, Jacques? Tu retournerais à la croix? Oui, OK. Bon, on y retourne d'abord. OK. Jacques, il le ferait. Fait que là, je retourne à la croix, Seigneur. Là, je suis vraiment désolé. Il me semble que j'apprends pas ma leçon. Je sais pas. Tu dois être tanné avec moi, certainement, là, à un moment donné, c'est assez, là, tu sais, à un moment donné, cling, là, il va me... Et là, je vous poserai la question suivante. Trouvez l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne pas dans ce que je viens de vous dire? Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas ça le vrai christianisme, ce que je suis en train de vous décrire, là. Là, vous allez vous dire, ben, attends un petit peu, là, wow. Retourner à la croix, c'est pas correct. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Mais c'est pas ça le vrai christianisme. Qu'est-ce qui manque? Trouvez l'erreur. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose de fondamental avec le vrai christianisme. Qu'est-ce qui manque? C'est un qui ose? Vas-y donc. Marcher avec Christ, OK? Oui? Ah, vas-y, mon André. Oui. OK. Alors, Jésus me suivrait. OK.
L'Esprit de Dieu.
Marche avec Christ. Jésus me suit.
L'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu habite en moi. Tout comme j'habite. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je chante. OK, ça c'est. C'est déjà pas pire. Mais c'est pas ça encore le vrai christianisme. C'est bon ça aussi, mais c'est pas ça encore le vrai christianisme. Ah, j'ai entendu quelque chose, là. Attends un petit peu. C'est quoi? Christ en nous. Alors, Christ en nous. Et on l'a chanté, en plus. J'étais tellement content. Oui, Philippe a pris des chants. Même Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, je tombe. J'ai besoin de retourner en arrière à la croix? Non. Non, je tombe. Christ vit en moi. Il est là avec moi, comme on a dit tantôt. Non seulement il est avec moi, à côté de moi, ce qui est excellent, c'est bon, là, c'est pas que c'est mauvais, là, cette idée-là, mais la vérité essentielle, centrale du christianisme, c'est qu'il vit en moi. Et donc, il est là en moi, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, peu importe où je suis rendu dans mon processus, j'ai pas besoin de retourner en arrière. J'ai pas besoin de faire de pénitence ou de quoi que ce soit d'autre. Il vit en moi, je peux simplement me tourner vers lui là. Et là, c'est ça, ce côté de relation versus l'autre aspect de la religion. Là, je suis en relation, mais imaginez-vous la relation, comment est-ce qu'elle est étroite, comment est-ce qu'elle est intime, comment est-ce qu'elle est proche. Je peux être n'importe où, à chasse, à pêche, dans une discothèque, puis là, je pourrais nommer bien des places. Si vraiment j'ai Christ en moi, et je l'ai expérimenté, ça, là, pour aller dans une discothèque au début de ma vie chrétienne, là, puis que j'avais passé une bonne partie de temps là, avant de devenir chrétien, puis là, je suis là, puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Puis là, j'ai une bière dans les mains. Qu'est-ce que je fais ici? Là, tout à coup, il y a comme un dégoût. Il y a comme un manque d'intérêt. Il y a comme un... Ça, la musique me parle plus, la piste de danse m'intéresse plus, puis c'est quoi qui se passe? Et là, est-ce que Jésus était avec moi, à côté de moi? Est-ce qu'il marchait avec moi? Est-ce qu'il aurait dansé avec moi sur la piste de danse? Il était en moi. Et c'est ça qui fait la différence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre union avec Christ fait que tout change. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est là que c'est plus de la religion. C'est là que c'est plus des disciplines spirituelles. Si j'en ai, si je lis la parole de Dieu, si je prie, si je viens à l'église, tout ça, ça devrait être simplement de cette réalité-là que j'ai Jésus en moi. Il aime ça, lui, aller à l'église. Il aime ça, prier. Il aime ça parler aux autres de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et là, tout à coup, la réalité de ma vie change. Pas parce que j'adhère à des affaires, puis que je me mets une liste de choses, là, puis je me tiens serré dans ce que je suis en train d'adopter de nouveau, puis que là, je travaille fort pour faire ça comme faut, là. Non. Je me tourne vers Jésus. Quand vous avez de la misère, quand j'ai de la misère, quand je ne vais pas bien, la meilleure chose que je peux faire, c'est me tourner vers Jésus. Il a dit, Seigneur, là, ça ne va pas bien. Là, mon cœur ne va pas bien, là, je suis découragé, ou bon, peu importe, je suis tenté, j'ai de la misère avec ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas de marcher en indépendance de la croix. C'est pas ça, la vie chrétienne. Si je peux continuer à marcher puis avoir le moins besoin possible de retourner à la croix. Amen! Imaginez-vous là, ce qu'on est en train de dire, si c'est ça la réalité de la vie chrétienne. J'ai de moins en moins besoin d'aller à la croix parce que je suis de plus en plus performant. Hein? Et là, je parle pas de mes attitudes, je parle pas de ce qui se passe dans mon cœur, je parle pas vraiment des choses que Dieu, lui, veut adresser. Puis, j'ai peut-être même perdu contact avec le Seigneur dans cette relation-là. Et là, c'est pour ça que je semble aller mieux, de mieux en mieux. Moi, si je vous dirais ceci, là, ça fait au-dessus de environ 40 ans là, que je suis dans le ministère et presque 50 que je suis chrétien, 40, 5, je pense, 46, quelque chose de même. Puis j'ai pas l'impression d'être de mieux en mieux. J'ai juste l'impression d'être de plus en plus dépendant de Jésus. C'est ça que j'ai comme impression intérieure. Je suis de plus en plus, j'ai de plus en plus besoin de Jésus à chaque jour. Et là, je vous dirais ceci, c'est qu'on dirait que là, je me tourne de plus en plus régulièrement, je sais pas combien de fois par jour, à me tourner vers Jésus puis lui demander son aide. Parce que je peux pas vivre sans lui. Et ça, c'est ça la croissance, à mon point de vue, là. La vraie croissance, c'est de réaliser de plus en plus qu'on l'a pas, de réaliser de plus en plus que c'est pas à nous à arriver à l'avoir, mais de plus en plus qu'on a besoin de lui, puis heureusement, il est là, et je peux toujours compter sur lui. Alors, voici le premier message, c'était aucune condamnation. Vous vous souvenez dans Romains 8, 1 à 4? Pourquoi aucune condamnation? C'est là, notre union avec Christ nous assure une pleine justification et une pleine satisfaction. Sanctification. Satisfaction aussi, là, mais c'est sanctification. C'est-à-dire une pleine croissance vers la sainteté. Et elle va, autant notre justification, elle est dès le point de départ, là. C'est une déclaration, donc, juridique, comme de quoi je suis non coupable. Mais aussi que je vais aller vers la stature parfaite de Christ. Et peu importe le chemin qu'on aura fait sur la terre, le jour où on va rencontrer Jésus, en un instant même, que ça dit dans la parole de Dieu, on va être comme lui. C'est une assurance, c'est une garantie. Aucune condamnation. Autrement dit, notre condamnation ou notre salut n'est pas dépendant de notre obéissance ou de notre manque d'obéissance. Donc, si je manque d'obéissance, ben là, je pourrais être encore condamné. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que Paul commence Romains 8 en disant, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est l'union avec Christ. C'est cette vérité que Christ, maintenant, s'est uni à nous. Et là, dans Romains 7, Paul parlait qu'autrefois, on était marié à la loi, maintenant, on est marié à Christ. Et donc, on est mort à la loi parce qu'on est maintenant, on est rentré en union, dans cette union spirituelle de cœur avec Jésus lui-même. Ouf, ça a de l'air. OK, mais vous voyez quand même bien. Donc, le deuxième, c'était « Aucun vide ». Romains 8, 5 à 9. Donc, Paul, il dit, le vrai christianisme là, ne laisse pas de vide dans nos vies. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tantôt, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Ça, c'est la vérité fondamentale du christianisme. Et là, donc, notre union avec Christ nous assure la présence permanente de l'Esprit en nous et par lui, une affection nouvelle pour Dieu et sa loi et un triomphe sur la chair. Alors, ça, c'est la vérité que l'on voit dans les Écritures. Et comme je vous avais fait mention, Romains 8, c'est le chapitre sur le Saint-Esprit dans toute la Bible. C'est là où il revient le plus souvent, où Paul en parle le plus, tellement que son rôle est important. Et là, c'est lui qui nous... C'est, autrement dit, c'est par l'intervention du Saint-Esprit qu'on est d'en haut, et c'est par l'intervention du Saint-Esprit qu'on a cette union spirituelle avec Christ. Et là, il vient habiter en nous, et cette habitation-là, elle est permanente. Il peut pas s'en aller, le Saint-Esprit, là. S'il y en a qui enseignent ça, ils sont complètement dans l'erreur. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient faire sa résidence dans le cœur d'une personne qui est née d'en haut, qui a vraiment passé par la nouvelle naissance, c'est permanent. Ça peut pas, il y a pas de retour en arrière dans cette nouvelle naissance-là. Alors ça, c'est très important. Et là, ici, j'ai mis quelques équations. Je l'avais déjà parlé précédemment. Mais par exemple, Dieu plus Christ en moi plus obéissance égale être sauvé. Il y en a qui enseignent ça. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec ça? Trouver l'erreur. C'est de rajouter l'obéissance comme étant un élément du salut. Donc, oui, Dieu, oui, Christ en moi, mais ça, c'est pas suffisant. Là, ça prend aussi mon obéissance. Et là, quand mon obéissance est là, puis là, c'est laquelle, cette obéissance-là? Parce que vous vous rappelez un peu la démarche, là, à un moment donné, whoop, on tombe, hé, là, ça marche plus. Là, il faut que je me repente, puis si je me repens pas, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, ça inclurait mon obéissance comme étant un élément de mon salut. Et ça, ça ne fonctionne pas, c'est la religion. Ça revient essentiellement à la religion. Et c'est pour ça que Paul, dans Galates, par exemple, il attaque ce mensonge-là d'obéir à des éléments de la loi pour se conformer à la loi, pour justement bonifier ta foi en Jésus. Non, ça fonctionne pas. T'annules la foi en Jésus. C'est comme si Christ, c'était pas suffisant ce qu'il a fait sur la croix. Et si c'est pas suffisant, ben ça fonctionne pas. Parce qu'il faut que ça soit suffisant, sinon, oublie ça. Dieu n'acceptera pas un ajout au sacrifice que son Fils a fait à la croix. L'autre, c'est Dieu plus Christ en moi, moins mon obéissance, c'est égal la perte du salut. Là, c'est la logique, là. Comprenez ici? Donc, si, oui, j'ai Dieu, oui, j'ai besoin de Jésus, sa mort sur la croix et tout ça, mais là, si j'arrête d'obéir, ben là, mon salut, c'est fini. Alors, ça, c'est pas biblique, c'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Dieu plus Christ en moi, c'est égal être sauvé. Et ça égale quoi? L'obéissance. Pourquoi? À cause de mon union avec Christ. Ouais, c'est mon union avec Christ, le fait qu'il vient résider en moi, que là maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est sacrifié et qui est mort pour moi, qui m'a aimé. Alors, l'obéissance découle du salut, n'est pas une condition au salut. Et c'est ça l'importance de vraiment retourner à cette vérité-là, que c'est seulement par notre union avec Christ. Donc, la vraie nature du christianisme, c'est que Dieu plus Christ en moi, ça égale la justification et, si vous voulez mettre obéissance ici, croissance, dans la sainteté, sanctification, c'est ça que ça veut dire, transformation. Alors, c'est tous des synonymes pour parler de cette réalité-là que la parole de Dieu dit, oui, la sanctification existe. Parce que vous savez, d'éliminer l'importance de l'obéissance, c'est pas la solution. C'est pas ça là, que la parole de Dieu enseigne. Non, non, l'obéissance, elle est absolument essentielle. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu, du vrai christianisme. Il y a de l'obéissance. Il y a de la transformation, il y a de la sanctification. Sauf, comment on y arrive? Quel est son rôle? L'obéissance n'est jamais ce qui va donner à ma vie une assurance du salut. Elle est seulement le reflet de la présence de Christ en moi et du fait que maintenant je marche avec lui et lui m'accompagne à chaque jour dans ce que je suis en train de faire. Ici, j'ai une citation de Jean Calvin qui dit ceci. Bien que nous puissions distinguer la justification de la sanctification, donc c'est deux choses séparées, Christ les possède toutes les deux inséparablement en lui-même. Comprenez? Jésus, lui, a autant l'un que l'autre. Voulez-vous obtenir la justification de Christ? Alors, vous devez d'abord être puissamment et gracieusement uni à Christ par la foi et l'action de son esprit, mais vous ne pouvez pas être uni à Christ en vue de la justification sans être aussi participant à sa sanctification. Comprenez? Vous ne pouvez pas avoir un puis pas avoir l'autre. Si vous êtes uni à Christ pour sa justification, donc votre salut, le pardon de vos péchés, ben vous l'êtes aussi pour la sanctification parce que les deux font partie de Jésus. Parce que justement, Jésus ne peut pas être divisé, 1 Corinthiens 1:13. Alors il dit encore, nous ne pouvons recevoir la justification de Christ sans recevoir en même temps sa sanctification. Et là, il cite 1 Corinthiens 1:30. Le Seigneur, dans sa bonté, nous les accorde les deux en même temps, l'un jamais sans l'autre. Nous voyons aussi combien il est vrai que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais justifiés pour les œuvres, donc pour l'obéissance, pour la sanctification, puisque notre union avec Christ, par laquelle nous sommes justifiés, pardonnés de nos péchés, contient aussi en elle la sanctification. Alors, il est exactement en train de dire ce que cette petite équation veut refléter. Maintenant, le troisième aspect de la vraie nature du christianisme, c'est qu'il n'y a aucun cul-de-sac. Et là, ici, c'est un peu comme une route qui mène à un cul-de-sac. Tu arrives là, oh, et là, tu peux pas sortir de là, faut te surveiller d'abord. Donc, le vrai christianisme n'a aucun cul-de-sac. Pourquoi? Parce que notre union avec Christ nous assure une infusion dans notre esprit. Alors, une infusion, c'est un déversement de la vie même de Dieu. Une inclinaison nouvelle dans notre âme. Et Paul dit aussi, même une résurrection de notre corps. Et par conséquent, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, parce qu'on est même assuré qu'on va ressusciter d'entre les morts. Et là, regardez Romains 8, 10 à 13, aucun cul-de-sac. Verset 10. « Et si Christ est en vous... » Alors, encore là, il parle de quoi? L'union avec Christ. Okay? Il revient à cette vérité-là qui va constamment revenir dessus parce que c'est l'élément principal, qu'on pourrait dire, du vrai christianisme. Le corps, donc notre corps physique, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc là, il y a un lien entre le corps, encore notre corps physique que l'on a, et le fait que le péché est encore vivant à l'intérieur de ce corps-là. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc là, c'est comme si la nouvelle nature a eu un impact fondamental sur notre esprit. Elle nous a fait passer de la mort à la vie, comme Paul disait dans Éphésiens, vous étiez morts autrefois par vos péchés. Maintenant, Dieu nous donne la vie, et là, on vit, puis là, tout à coup, on voit, puis là, tout à coup, on comprend, puis là, tout à coup, on change, nos désirs changent, nos aspirations changent, à cause de cette vie de Dieu et du fait que là, maintenant, on voit. Avant, on était aveugle, maintenant, on voit. Et là, on voit ce que Dieu, qui est Dieu, ce qu'il veut, et le péché, c'est quoi, et tout ça. Et là, on a une sensibilité à ces choses-là qu'on n'avait pas autrefois. Alors, ça, c'est Paul montre qu'il y a quand même... Il y a quelque chose qui n'a pas été encore racheté. Et ça, c'est le corps. Et là, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous... » Alors là, il revient à cette vérité-là, que l'esprit est venu faire sa résidence permanente dans celui qui s'est tourné vers Jésus par la foi. « Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie... » Voyez ici, « donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc, ça reste à faire. Cette vie-là n'est pas encore communiquée à nos corps. Et là, c'est pour ça qu'il continue. « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair, du corps, pour vivre encore selon la chair, le corps dans lequel le péché a encore une prise. » Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et là, c'est là la réalité de la présence de l'esprit qui, elle, va incider notre vie à justement aller à l'encontre des désirs de la chair. Et là, dans Galates, Paul va en parler abondamment. Et un peu plus loin, dans Romains, il va parler aussi que, justement, il va avoir la rédemption de nos corps. Donc, un cul-de-sac, c'est quoi? C'est une impasse, c'est une voie sans issue, c'est une fausse route, une paralysie, c'est un point mort. Bien, dans le vrai christianisme, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de voie sans issue. Donc, pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés, non seulement notre esprit, notre âme, mais aussi même notre corps. Dans 1 Corinthiens 15, 35 à 38, 42 à 44, 54 à 55, Paul dit ceci. « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend pas vie, s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et là, il fait cette allusion à la culture pour maintenant revenir. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Notre corps qui est semé corruptible va ressusciter incorruptible. Semé méprisable, il va ressusciter glorieux. Semé plein de faiblesse, il va ressusciter plein de force. Semé corps naturel, il va ressusciter corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Sommes-nous dans le corps spirituel présentement? Sommes-nous dans ce corps incorruptible? Non. Et ça, c'est la réalité dans laquelle on est encore en train de vivre. D'où la problématique, la difficulté qu'on a de vivre totalement, tout le temps pour Dieu. On doit composer avec cette réalité que le péché existe encore à travers ce corps, cette chair. Alors, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais ce que Paul nous dit, c'est que le christianisme, le vrai christianisme, nous donne cette espérance de la résurrection d'entre les morts et donc d'être complètement libéré de tout ce qui concerne le péché et tout ce qui l'entoure. Alors, Paul énumère plusieurs bienfaits qui nous sont donnés grâce à notre union avec Christ. Premièrement, une pleine justification et une pleine sanctification, une demeure permanente de l'Esprit en nous, une affection nouvelle pour Dieu et sa loi, un triomphe sur la chair et le péché, triomphe qui est progressif naturellement, parce qu'on voit que ce que Paul disait par rapport encore à cette réalité de la chair, une infusion de la vie de Dieu dans notre esprit, une inclinaison nouvelle dans notre âme et une résurrection de notre corps, donc pour mettre un terme complet à cette réalité du péché. Alors, quelle est la différence fondamentale entre le « nous » d'autrefois, qui étions en union avec Adam, et le « nous » de maintenant, qui est en union avec Christ? Alors, basé sur ce que on voit dans Romains 8, l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure permanente en nous, ça change tout. Il nous communique la vie de Dieu, donc c'est lui qui nous donne cette capacité de vivre pour Dieu. Il crée en nous une affection et une inclinaison nouvelle pour Dieu et sa loi. Encore là, ça fait toute la différence. Il nous donne la victoire sur la chair, le péché et la mort. Il nous assure la résurrection de notre corps terrestre. Maintenant, tous ces bienfaits-là sont liés à quoi? Selon Paul, et tout cela est vrai, dit Paul, si l'Esprit de Dieu habite en nous. Sinon, c'est de la religion. Et vous savez ce qui arrive pour quelqu'un qui essaie de vivre le christianisme sans Christ, sans la présence de l'Esprit en lui? Ben, à un moment donné, il va faire une indigestion. À un moment donné, il va être découragé. À un moment donné, il va rejeter la foi. Juste hier, j'écoutais un atelier de 4 personnes et 3 sur 4 que je peux dire que je connais. Puis il y en a 2, c'est 2 jeunes dans la trentaine, 2 beaux jeunes qui ont été élevés dans le contexte que je dirais d'une église évangélique. Selon même leurs propres propos, là. Ils ont été élevés dans une église évangélique. Pour arriver à un moment donné à tout remettre ça en question. Et puis finalement, un est allé même jusqu'à dire que d'avoir été enseigné que on a une nature qui est fondamentalement mauvaise, c'est ça le problème. On ne devrait pas enseigner ça à des jeunes, que leur nature est fondamentalement mauvaise, parce que ça les brime. Ça les brime dans leur développement personnel, ça les brime dans leur identité. Et là, en faisant le tour, lui a fait un peu comme une recherche et il est allé voir plusieurs jeunes qui ont quitté comme ça le milieu évangélique. Puis ce qui semblait ressortir fort, là, ce qui semblait avoir été l'élément déterminant pour ces jeunes-là de quitter, c'était la culture de la pureté avec laquelle ils n'étaient plus d'accord. Donc, si on ne peut pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ou si on ne peut pas exprimer notre sexualité, peu importe laquelle que c'est, et que moi je suis, que j'ai besoin d'expérimenter cette sexualité-là, et qu'il faut être marié, puis il faut être dans un contexte XY, et tout ça, ben, ça ne m'intéresse plus. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Moi, ce que ça me dit, c'est d'essayer de vivre le christianisme sans avoir expérimenté réellement, profondément la nouvelle naissance, sans avoir goûté à Christ lui-même, sans que Christ habite dans mon cœur. Parce que c'est sûr que si on essaye de vivre le christianisme sans avoir passé par la nouvelle naissance, sans avoir vécu le miracle que seul Dieu peut opérer dans le cœur de quelqu'un, c'est impossible. Et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Si j'essaie de vivre la vie chrétienne, et peut-être vous êtes dans cette situation-là, vous avez de la difficulté à vivre votre quotidien ou vivre les exigences de la foi, parce que c'est seulement ça qui semble ressortir pour vous, les exigences de la foi, et d'obéir, puis tout ça, puis ça devient compliqué, ça devient lourd, c'est une règle de choses à ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire, puis c'est rien que ça, des choses de ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Mais peut-être que vous n'avez pas cette union avec Christ. Si vous n'avez pas cette union avec Christ, c'est de la religion, tout simplement. Et c'est normal que ça soit à un moment donné plus intéressant pour vous autres, que ça soit pas quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, c'est lourd. Et là, c'est là que vous avez besoin de réaliser que sans Christ, c'est impossible de vivre la vie chrétienne. Et que c'est même lourd. C'est pas quelque chose qui va vous emmener à destination. Je vais terminer avec la conclusion. Aucune garantie de guérison sur cette terre. Comment dire, on est encore dans un corps qui est assujetti à la maladie, à la mort et tout ça. Et donc, on ne peut pas avoir une garantie là, que présentement, si on passe par une maladie, qu'on va être guéri. Parce que Jésus est mort à la croix, parce que j'ai la foi en lui, c'est sûr que je vais être guéri. Ben, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui meurent de maladies cardiaques, cancers, et c'est pas parce qu'ils aiment pas le Seigneur, c'est pas parce qu'ils ont manqué de foi et des choses semblables. C'est simplement que votre corps n'a pas encore été ressuscité, il n'a pas encore été racheté. Ça va venir, mais Dieu l'a prévu à la fin et non pas au début de notre vie chrétienne. Ça fait partie du salut de Dieu. C'est comme ça qu'il a voulu cela. Donc, on n'a aucune garantie de guérison sur cette terre. Mais, ça c'est la bonne nouvelle, notre union avec Christ nous assure qu'il n'y a dès maintenant... Quoi? Dites-le avec conviction. Aucune condamnation. 8, 1 à 4. Et non seulement qu'il n'y a aucune condamnation, mais aucun vide, parce que Christ, par son Saint-Esprit, est venu faire sa résidence en vous. Vous n'êtes jamais tout seul. Il est non seulement avec vous, à côté de vous, il est en vous. Il n'y a aucun vide possible. Christ est présent là. Et non seulement ça, mais il n'y a aucun cul-de-sac. On s'en va pas dans le mur, nous autres. Non, on s'en va vers la résurrection d'entre les morts. On s'en va vers le ciel. On s'en va vers un corps ressuscité, un corps incorruptible, un corps spirituel. C'est ça qui nous attend. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Pas parce qu'on le mérite, parce que on est uni à Christ. C'est ça qui fait la différence. Et la prochaine fois, il n'y a aussi aucun déshéritement. On a un héritage qui nous attend et personne ne va pouvoir nous l'enlever, cet héritage-là, même pas vous-même. Okay? C'est même pas dépendant de vous, c'est le cadeau de Dieu, autant que votre salut est un cadeau de Dieu, autant que son Saint-Esprit est un cadeau de Dieu, autant que la résurrection d'entre les morts, c'est un cadeau de Dieu. Votre héritage aussi, c'est un cadeau de Dieu et c'est une garantie. Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe, la louange à venir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore ce matin. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci parce qu'on peut se tourner vers toi, Seigneur, puis on peut s'attendre à toi. Seigneur, c'est toi qui fais la différence. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné cette promesse de venir faire ta résidence en nous, de venir t'unir à nous. Et même tu es allé aussi loin que de dire que l'union que toi tu as avec ton Père, une union qui est incroyable, une union qui est indestructible, une union qui est intime, une union qui est absolue, qui est spirituelle. Mais Seigneur, tu nous dis que nous aussi, on a cette union avec toi et qu'on a cette union avec ton Père. Seigneur, c'est incroyable ce que tu es venu faire par le vrai christianisme, par ta mort sur la croix, ce que tu es venu nous apporter comme un don gratuit, un cadeau, Seigneur. C'est exceptionnel. Seigneur, permets à ce que nos cœurs puissent s'ouvrir. Permets à ce qu'on puisse revenir à cet essentiel, cet ADN du vrai christianisme. Et qu'on cherche pas, Seigneur, autre chose à gauche et à droite. Et qu'on laisse pas l'ennemi venir jouer dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, comme s'il fallait mériter quelque chose, comme si ça dépendait de nous, comme si ça reposait sur nos épaules. Seigneur, ramène-nous à toi. Ramène-nous dans une communion intime avec toi, Seigneur, à ce qu'on puisse venir à toi encore et encore et encore et au trône de la grâce et toujours revenir à toi, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut pas rien faire. Mais étant unis à toi, Seigneur, tu vas produire en nous tout ce que tu as promis que tu allais produire. Alors merci, Seigneur, pour toutes ces choses et pour ce qu'on va voir encore. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.